France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Après 3 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine et alors qu'une trêve semble envisageable dans les semaines qui viennent, un accord sur les minerais stratégiques ukrainiens est en passe d'être signé entre Washington et Kiev. Que contient cet accord? Nous ferons le point avec Virginie Pironon. Puis nous entendrons Emmanuel H, spécialiste des ressources naturelles. Pour lui, le potentiel économique du sous-sol ukrainien n'est pas si simple à estimer. Dans ce journal, nous serons aussi avec Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde, pour évoquer la situation humanitaire en Cisjordanie. Les opérations israéliennes en cours dans les camps de réfugiés du nord du territoire provoquent déplacements de population et difficultés d'accès aux besoins de base comme l'eau potable. En France, les écologistes font leur examen de conscience quelques jours après le classement sans suite de l'enquête visant l'ex-député Julien Bayou. On reviendra sur l'affaire Amra, le narcotrafiquant interpellé en Roumanie devrait être très rapidement remis à la France en dépit d'un recours. Cours déposé à Bucarest. Enfin, une étude dévoilée en marge du Salon de l'agriculture montre que la moitié des dépenses en produits frais sont actuellement réalisées par les plus de 60 ans, précisons de Mathieu Laurent à la fin de ce journal. Alors qu'Emmanuel Macron s'est fait le porte-voix des Européens hier à Washington pour éviter un accord de paix avec la Russie trop défavorable à Kiev, Donald Trump a déclaré qu'il pourrait bientôt rencontrer le président Zelensky cette semaine ou la semaine prochaine, a-t-il précisé. Il s'agit de paraffer rapidement un accord sur l'accès pour les Américains aux minerais ukrainiens. C'est une exigence de la Maison-Blanche. Il s'agit de compenser le soutien militaire à Kiev. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Ces négociations seraient en ce moment même dans leur phase finale.
Exactement, c'est ce qu'ont fait savoir dès hier les autorités ukrainiennes, notamment par la voix de la vice-première ministre, Olga Stefanichina. Nous nous engageons, a-t-elle déclaré sur X, à terminer cet accord rapidement pour procéder à sa signature. Le site d'information américain Axios, de son côté, s'est procuré une ébauche du document qui peut donc évoluer. Mais selon ces informations, Washington et Kiev seraient sur le point de signer un accord portant sur des centaines de milliards de dollars.
Et y aura-t-il des garanties de sécurité pour l'Ukraine dans cet accord?
Alors en tout cas, aucun engagement militaire. C'est ce que note aujourd'hui le journal ukrainien Kyiv Independent. Sans plus de détails pour le moment, les États-Unis exprimeraient dans ce document, je cite, leur désir de garder une Ukraine libre, souveraine et sécurisée. Alors cet accord comprendrait la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine, géré conjointement par Washington et Kiev, et destiné à investir dans l'exploitation minière, mais aussi dans les ports. Toujours selon ce texte, les États-Unis seraient en mesure de rembourser une partie de leurs coûts associés à la défense et à la reconstruction du pays. Et tout pourrait se passer très vite, Anne, puisque selon un responsable ukrainien anonyme cité par Axios, l'accord pourrait être signé dès le 3 mars, soit lundi prochain.
Merci Virginie Pironon pour vos précisions. Derrière les tractations diplomatiques, que trouve-t-on exactement dans le sous-sol ukrainien et ce potentiel est-il vraiment estimable? Diane Berger a posé la question à Emmanuel H. Il est économiste, spécialiste des ressources nécessaires à la transition à l'IFP Énergie Nouvelle.
On aurait le premier gisement notamment de lithium en Europe, en Ukraine. On sait que le sous-sol, il est riche également en terres rares. Mais les informations, notamment sur le coût du développement ou sur le niveau réel, j'allais dire, de ce que l'on peut en attendre d'un point de vue économique, il est très large. Moi, j'ai lu des estimations entre 12 000 milliards de dollars et puis 26 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, en gros, on est du simple au double. Ce sont des estimations d'un potentiel de ressources au prix que l'on peut observer sur les marchés actuellement. Cela ne veut absolument pas dire que de tels revenus pourront en être tirés, parce que tout simplement, en fait, entre le moment déjà où vous allez explorer le sous-sol et vous allez produire, les prix peuvent évoluer. Et surtout, encore une fois, entre le potentiel que l'on a estimé et puis la réalité objective de ce que l'on va trouver, le filon peut être un tout petit peu plus faible. Et puis, on a quand même aussi un risque environnemental, parce que quand vous parlez de gisements de terres rares, on sait que les terres rares sont généralement associées dans le sous-sol avec du thorium et de l'uranium. Donc, potentiellement, vous avez des problématiques qui sont liées à des émanations de polluants. Et l'Ukraine, vous rajoutez aussi l'environnement international. Bien évidemment, ça veut dire que les gisements en Ukraine, d'un point de vue du risque, c'est ce que l'on fait de pire aujourd'hui.
Des propos recueillis par Diane Berger. Emmanuel Macron est de retour en France après avoir tenté d'infléchir la position de Donald Trump hier soir à l'égard de l'Ukraine. Le président français a lui aussi plaidé pour une trêve qui pourrait être conclue dans les semaines à venir. Si cette trêve n'est pas respectée, cela sera la meilleure preuve du fait que la Russie n'est pas sérieuse, a affirmé Emmanuel Macron, qui a aussi plaidé la cause de l'Union européenne face à la marée de nouveaux droits de douane promis par Washington. Les explications de Claude Guibal.
C'est presque devenu quotidien chez Donald Trump l'annonce de nouvelles taxes sur les produits entrant aux États-Unis. Chine, Mexique, Canada, mais aussi des secteurs spécifiques comme l'acier et l'aluminium. L'Union européenne est aussi dans sa ligne de mire, les exportations européennes étant plus nombreuses que les importations américaines. La faute, selon Donald Trump, à un traitement inéquitable des entreprises américaines. Emmanuel Macron s'est donc fait sur Fox News le porte-voix des Européens pour éviter une guerre commerciale.
La solution dans ce moment
Ce n'est pas vraiment le moment d'augmenter les droits de douane, explique-t-il, parce que l'urgence, c'est plutôt d'augmenter nos dépenses en matière de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'on le fasse si on est en guerre commerciale ? Vous ne pouvez pas mener de guerre commerciale à la Chine et l'Europe en même temps, martèle Emmanuel Macron, qui a aussi longuement expliqué à Donald Trump le principe de la TVA à 20%, une taxe payée par tous, mais que Donald Trump considère comme un droit de douane supplémentaire et injuste.
Claude Guibal, de la rédaction internationale de France Culture.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit gravement préoccupé hier par la montée de la violence en Cisjordanie et les appels à l'annexion de ce territoire.
Alors que les discussions se poursuivent sur le fragile cessez-le-feu à Gaza, Israël vient en effet d'expulser des dizaines de milliers de Palestiniens de trois camps de réfugiés au nord du territoire occupé. C'est l'opération Mur de Fer qui se poursuit. L'objectif militaire pour Israël est d'empêcher le Hamas de commettre des attentats anti-israéliens en Cisjordanie et sur le territoire israélien. Tout proche. Le djihad islamique palestinien accuse de son côté Israël de vouloir annexer la Cisjordanie par la force. Principale conséquence de cette opération, un déplacement massif de population est en cours, possiblement le plus important depuis la guerre des Six Jours en 1967. Quelle est la situation humanitaire sur place? Nous faisons le point avec Jean-François Corti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, chercheur et président de l'ONG Médecins du Monde. On a vu hier ces images de chars israéliens entrant dans le camp de Jénine, un camp constitué de bâtiments en béton qui date des années 70. Les réfugiés, ils seraient près de 20 000 dans ce camp. Ils ont dû quitter leur habitation en urgence. Où peuvent-ils aller exactement ?
Oui, écoutez, la situation s'accélère sur le territoire occupé de Cisjordanie depuis 67, où on sait qu'il y a quand même déjà près de 500 000 colons qui sont présents. On a des opérations de Médecins du Monde qui sont en difficulté du fait de ces opérations militaires qui interviennent depuis le 21 janvier sur Jenin, vous l'avez rappelé, mais aussi sur Tul Karem et Nour Sam. Et c'est environ 45 000 personnes qui sont déplacées, qui viennent s'ajouter, on va dire, aux besoins importants d'une population qui vit dans une précarité assez importante. Donc vous avez à cela rajouté près de 44 morts aussi depuis le 21 janvier. Donc on a une situation explosive et des besoins humanitaires qui se transforment. Jusqu'à présent, nos équipes travaillaient sur l'accès en soins de santé primaire, sur la question de la santé mentale et toutes les problématiques de santé liées à l'occupation, à la violence. Mais aujourd'hui, effectivement, les ONG vont devoir s'adapter à de nouveaux besoins en matière de logement, de nourriture pour des déplacés qui ont tout perdu.
Alors, les conditions israéliennes sont très strictes. Les réfugiés ne peuvent pas revenir avant un an. Cela ajoute, j'imagine, des difficultés pour que les organisations humanitaires puissent intervenir.
On est dans un contexte où il va falloir assurer une continuité, une prise en charge pour ces populations dans la durée, parce qu'on parle d'un an, mais peut-être que potentiellement elles ne pourront pas revenir, je n'en sais rien. Ça veut dire effectivement des moyens logistiques, des moyens humains plus conséquents pour pouvoir répondre à ces besoins. On est par ailleurs dans un contexte où l'espace humanitaire se restreint progressivement, notamment en Cisjordanie. Vous savez que l'Agence des Nations Unies, UNRWA, a de plus en plus de mal à opérer en Israël parce que ces acteurs ne peuvent plus travailler aujourd'hui au regard de la loi israélienne avec des acteurs israéliens. Et puis, vous avez aussi une loi qui est passée le 9 février et à la Knesset en Israël et qui met la pression sur les ONG qui auraient des prises de parole qui ne vont pas dans le sens des intérêts israéliens. Donc, vous avez un contexte où les besoins humanitaires augmentent avec une pression militaire qui n'avait pas été vue depuis 20 ans. Hein, des chars, notamment, et des opérations militaires de ce niveau sont nouveaux et accentuent, on va dire, la gravité de la situation. Mais vous avez aussi des humanitaires qui sont en difficulté pour pouvoir travailler, du fait notamment de l'augmentation des checkpoints et des barrages qui se sont multipliés autour de ces camps déplacés, et aussi du fait de l'évolution du cadre légal israélien qui restreint l'opérationnalité des humanitaires. Donc oui, on est dans une situation qui est particulièrement inquiétante et qui rend l'accès, encore une fois, aux soins, c'est ça qui nous concerne aussi en tant qu'ONG médicale, difficile. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a estimé que c'était près de 70% des infrastructures, notamment hospitalières de Cisjordanie, qui fonctionnaient, que c'était près de 70% des infrastructures sanitaires, on va dire, de centres de santé ou autres, qui fonctionnent 3 à 4 jours par semaine, pas plus, du fait des contraintes logistiques et de déplacement.
Monsieur Corti, vous disiez il y a quelques mois dans une tribune dans le journal Le Monde au sujet de Gaza que le droit humanitaire se trouvait à un point de bascule, c'est-à-dire ?
Mais écoutez, lorsque vous avez 2 millions de personnes qui ont été déplacées à plusieurs reprises, y compris les équipes humanitaires dans Médecins du Monde, vous avez près de 70 000 morts, 110 000 blessés, une aide humanitaire qui a été empêchée du fait d'un siège majeur, et avec près de 300 acteurs humanitaires tués, effectivement, toutes les règles du droit international humanitaire ont été largement bafouées. Et donc on est dans un contexte où aussi, mais c'est pas nouveau de voir le droit humanitaire remis en question, on l'a vu au Yémen, on l'a vu régulièrement en République démocratique du Congo ou en Ukraine, mais là on est dans un contexte où la plupart des Occidentaux qui défendent le droit international humanitaire, et ils le font très bien lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, sont un peu moins regardants sur ce qui se passe sur Gaza et Cisjordanie. Et donc ce deux poids deux mesures est inquiétant et affaiblit le droit international humanitaire qui a besoin d'être défendu.
Merci Jean-François Corti, président de l'ONG Médecins du Monde, et merci à Louise Moirfas pour la préparation. Plus de 2 mois et demi après la chute de Bachar al-Assad en Syrie, le président par intérim Ahmad al-Sharré a annoncé ce matin sa volonté de mettre en place une justice de transition pour, je cite, « rétablir les droits des Syriens et traduire les criminels en justice ». Ahmad al-Sharré s'est engagé également à garantir le monopole de l'État sur les armes.
22 personnes sont toujours en garde à vue soupçonnées d'avoir participé à l'évasion de Mohamed Amra en mai dernier. Cette évasion qui avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires.
La procureure de Paris évoque une organisation criminelle déterminée. Mohamed Amra avait été arrêté samedi matin en Roumanie. Il doit être remis aux autorités françaises très rapidement. C'est une question d'heures ou de jours. Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
L'ex-fugitif avait initialement accepté son extradition, mais il a finalement décidé de déposer un recours.
Oui, Mohamed Amra qui conteste sa culpabilité. Selon son avocate, il se dit victime d'une erreur judiciaire et fait donc appel de la décision de le renvoyer en France. On rappelle que le narcotrafiquant contestait déjà les faits qui lui sont reprochés, même lorsqu'il avait initialement accepté son extradition. La justice roumaine n'a pas encore examiné ce recours, mais il devrait être jugé irrecevable, selon la procureure de Paris, Laure Bécquo, sur France Info ce matin.
En l'état des informations que j'ai depuis hier 19h15, pour être tout à fait exact, il m'a été confirmé que la décision de remise était définitive et que nul recours, y compris un pourvoi, n'était susceptible de remettre en cause la possibilité des délais de remise.
La procureure qui dit s'attendre à une remise extrêmement rapide de Mohamed Amra à la France grâce à la coopération des autorités roumaines. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, espère une extradition dans les 10 prochains jours, d'ici le 5 mars, et même dans les toutes prochaines heures, croit savoir l'agence France Presse qui cite une source roumaine anonyme. Ce recours semble donc plutôt symbolique, même si le fugitif, l'ex-fugitif, dit aussi par la voix de son avocate vouloir porter plainte contre la perquisition de son logement. En attendant, Mohamed Amra se trouve actuellement sous haute sécurité à Bucarest, quant aux conditions de l'extradition ou encore la prison où sera détenu l'ancien fugitif. La procureure reste logiquement extrêmement discrète. Tout juste sait-on qu'une réunion a eu lieu hier à propos de l'établissement qui accueillera Mohamed Amra.
Les explications de Laura Dulieu. 2 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce matin pour dégradation par substance incendiaire ou explosive. Cette procédure fait suite au jet d'engins explosifs hier contre le consulat général de Russie à Marseille. Pour les écologistes, c'est peut-être l'épilogue d'une longue affaire qui avait débuté fin 2022, quelques jours après l'annonce du classement sans suite de l'enquête pour harcèlement moral visant l'ex-député Julien Bayou. Le parti fait son examen de conscience. La semaine dernière, les écologistes avaient déploré les souffrances et les conséquences négatives que cette affaire avait occasionnées chez l'ancien patron du mouvement. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Anne.
Aujourd'hui, c'est l'actuel chef de file des Verts, Marine Tondelier, qui exprime ses regrets.
Oui, la secrétaire nationale des écologistes a exprimé ses regrets à titre personnel ce matin sur France Info, faisant écho au communiqué du parti publié ce week-end. Certains au sein du parti estiment que ce n'est pas suffisant, qu'il conviendrait de présenter des excuses, notamment après l'enquête interne initiée par Marine Tondelier il y a un an. Elle avait lancé un appel à témoignage en direction des 12 000 adhérents du parti, un appel à délation dénoncé par Julien Bayou et d'autres écologistes. Marine Tondelier s'en est expliquée ce matin.
J'en ai pas dormi la nuit pendant des nuits parce que moi j'ai reçu des signalements de filles qui ne savaient pas comment faire, dont je ne savais pas non plus quoi faire. Nous avons lancé cette enquête, nous avons fait ce que nous avions à faire. Est-ce qu'on devait le faire à une autre date, d'une autre manière? On pourra toujours en débattre. Et ce débat aura lieu chez les Verts, j'ai pas de problème là-dessus. Mais ce que je sais aussi, c'est que il n'y a pas de bonne manière de faire.
Et l'affaire Julien Bayou n'était pas facile à traiter, selon la chef de file des écologistes, parce qu'elle s'inscrivait dans un phénomène de société qui la dépasse largement.
Je dois vous dire aussi que MeToo est un mouvement révolutionnaire et que le patriarcat, c'est une des pires dominations systémiques de notre société. Dans toute révolution, il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est un moment de renoncer, de laisser, voilà, de revenir au statu quo parce que c'est trop dur ou pour des tas de raisons. Nous le refusons. Le deuxième écueil, c'est l'arbitraire. Et les écologistes y sont également extrêmement sensibles et mobilisés sur ce sujet. Et donc, notre combat écologiste, c'est d'être sur cette ligne de crête permanente qui soutient un mouvement historique d'émancipation, mais qui respecte l'état de droit.
Il y a aujourd'hui un vrai embarras chez les écologistes. Si certains estiment qu'il faut présenter des excuses, d'autres font valoir qu'on n'en a pas terminé. Sandrine Rousseau notamment, car la plaignante, dit-elle, peut encore faire appel. Julien Bayou lui estime qu'il a été traité comme un présumé coupable, que son ancienne formation politique ne lui a jamais donné l'occasion de se défendre et il accuse l'actuelle direction de médiocrité, de lâcheté et de bassesse.
Compte rendu signé Stéphane Robert. Après un parcours législatif de plus de 2 ans avec même un passage par la Commission européenne, le texte interdisant les puffs, ces cigarettes électroniques jetables bon marché, est entré en vigueur aujourd'hui. Le marketing attrayant et le faible coût de ces cigarettes avaient fait leur succès auprès des plus jeunes en dépit d'un risque avéré de dépendance à la nicotine. La moitié des dépenses totales pour des produits frais traditionnels, catégories rassemblant la poissonnerie, la boucherie, les fromages à la coupe et les fruits et légumes, sont réalisées par des consommateurs de plus de 60 ans. C'est ce que nous révèle une étude Kantar rendue publique en marge du Salon de l'agriculture. La société, spécialiste des tendances de consommation, s'appuie sur le nombre de transactions dans les grandes surfaces, les commerces traditionnels spécialisés, comme les grandes surfaces de frais, les marchés, les foires ou encore les magasins bio. Bonjour Mathieu Laurent.
Bonjour Anne et bonjour à tous.
Ce n'est pas vraiment une révélation.
Non, en effet, ceux que l'on nomme, moyennant un euphémisme, les seniors, ont eu droit, on le sait, à un leg, un savoir travailler les produits frais et pour la vie. Olivier Andreau est chargé de mission alimentation à UFC Que Choisir.
Quelle que soit la génération, on a tendance à garder tout au long de sa vie les habitudes alimentaires que l'on a apprises lorsqu'on était enfant. Et les seniors, notamment pour les générations les plus avancées, sont celles qui ont appris auprès de leurs parents à cuisiner à partir d'aliments bruts, qui ont appris aussi à préférer des fruits en fin de repas plutôt que des desserts. Et à l'inverse, les jeunes générations, ce sont celles pour lesquelles c'était imposé depuis longtemps auprès de leurs parents, eh bien, des produits transformés à tous les moments de la consommation, entrée, plat et dessert.
L'étude Kantar ne fait que confirmer des données connues depuis longtemps. Les plus jeunes n'ont pas les codes, pas le temps, ni l'argent. Et la sanction budgétaire pèse lourd, Olivier Andreau.
L'Observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires nous indique qu'en moyenne, 60% du prix que vous payez pour les fruits, c'est de la marge de la grande distribution. Et c'est encore plus élevé pour les légumes, ça serait de l'ordre de 70%.
Délicat de rompre avec ce qui s'apparente à des tics alimentaires. En cas d'échec, recommandation d'Olivier Andreau, chargé de mission donc à alimentation, à UFC Que Choisir.
À ce moment-là, si on se tourne vers des produits transformés, privilégiez absolument ceux qui ont un bon Nutri-Score, un Nutri-Score A B, voire éventuellement C, c'est bon pour votre santé et c'est aussi un moyen de mettre la pression sur les industriels pour qu'ils améliorent leurs recettes.
Anne, notons enfin que selon l'enquête Kantar, les ventes de produits frais ont baissé de 1,5% en 2024, ventes impactées par l'inflation depuis 2022.
Merci Mathieu Laurent pour vos explications. Les immatriculations de voitures hybrides neuves ont redépassé celles des véhicules utilisant l'essence au mois de janvier dernier en Europe. L'association des constructeurs européens a publié un bilan qui montre également une diminution dans l'Union européenne des ventes de véhicules neufs. Ces ventes ont reculé de 2,6% en un an. Enfin, la présence des femmes au poste de direction dans les entreprises du CAC 40 est en augmentation. Elles sont désormais 28% à ces postes clés, 2 points de plus qu'en 2023. C'est la conséquence de l'adoption d'une loi sur les quotas, la loi RIC5, qui deviendra contraignante à partir de 2026. Les entreprises s'y préparent. La météo cet après-midi, des averses sur une grande moitié est, alternance de nuages et d'éclaircies sur la façade ouest et les températures de 8 à 16 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Prochain journal 18h avec Aurélie Kiefer.